Muito bom dia. Vamos dar início a esta audiência com o Sr. Guillaume Leblanc, chefe de assuntos governamentais da RELCS, onde RELCS, para o sul da Europa, e está presente também o Sr. Diego Jalon Barroso, que é tradutor. Eu dou as boas-vindas a ambos. Soyez les bienvenus. Diria que, olhando para o pedido de reunião, da audiência, apontam-nos aqui vários temas e eu dava-vos inicialmente a palavra por 10 minutos para apresentarem aquilo que vos motivou este pedido de audiência.
Apoyar aqui, ok. Madame la Présidente, merci, Madame, bonjour, merci de votre temps. Je vais essayer de parler près du micro et d'articuler, puisque je sais qu'il y a beaucoup de Portugais qui comprennent le français, donc j'en suis très heureux. Alors moi, je m'appelle Guillaume Leblanc, merci de votre temps, et je travaille pour le groupe RELCS. Est-ce que vous connaissez le groupe RELCS ? Non, sans doute pas, mais c'est un groupe que vous connaissez sans doute par les activités que nous faisons. En fait, RELCS est une compagnie mondiale, mais qui est basée en Europe. À Londres principalement. C'est une compagnie qui est à la base née en Europe et qui emploie plus de 10 000 personnes en Europe et dont le siège est à Londres. Donc à London. Donc on travaille voilà, à Londres. Voilà. Et c'est un groupe international qui a beaucoup évolué avec la digitalisation ces derniers temps. Mais c'est d'abord un groupe qui est de plus en plus positionné sur les solutions technologiques, tech. In English, we would say tech for knowledge company. Okay, c'est très important de recevoir. En fait, notre principale mission, donc ce ne sont pas des activités B2C, business to consumer, mais c'est B2B, business to business. C'est d'abord et avant tout d'apporter, de nous appuyer sur du contenu riche, certifié, de qualité de l'information professionnelle et de servir ses clients en ayant des contrats avec eux pour pouvoir... sur la base de cette donnée qui est vraiment très riche, très professionnelle et très, ouais, d'une très grande qualité, de pouvoir vendre ces contenus à différents types de clients dans différents secteurs. Donc pour ça, on a différentes entreprises au sein du groupe, mais je vais vous donner trois exemples d'entreprises. L'entreprise Elsevier, dont on va parler aujourd'hui, qui est le leader mondial de l'information scientifique et médicale, donc là dans le domaine de la recherche et dans le domaine des sciences. Il y a l'entreprise LexisNexis, qui est dans le domaine du droit, où on travaille beaucoup avec des avocats, notamment pour valoriser nos contenus, leur vendre nos contenus. Et puis, on a également une autre partie qui n'est pas trop présente en Europe, plus au UK et plus aux États-Unis, qui est la lutte contre la fraude et les paiements en ligne, vous savez, tout ce qui est argent sale, etc., où nous, on aide avec nos données à traquer la fraude en ligne. Voilà. Donc, c'est un groupe, il faut bien se comprendre que la donnée, data, is central. Et voilà, nous, on utilise la donnée de qualité pour pouvoir la valoriser. En fait, si je puis me permettre, c'est très important notre positionnement en ce moment parce que we used to say knowledge was power. Celui qui avait la connaissance, qui avait l'information, avait la puissance. Je pense que c'est toujours vrai, mais maintenant, avec la multiplication des informations en ligne, la désinformation, les fake news, etc., c'est « trusted knowledge is power ». Donc, il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur l'information de qualité professionnelle. Et on le voit que c'est d'autant plus vrai en ce moment avec l'intelligence artificielle. Puisque pour pouvoir lancer des modèles d'intelligence artificielle, il faut des jeux de données qui soient fiables, de bonne qualité. Et nous, on est propriétaire de ces jeux de données. Donc, voilà pour vous présenter RELCS, mais tout de suite, je voudrais, si vous voulez, vous présenter Elsevier et pourquoi aujourd'hui on souhaiterait vous parler d'Elsevier, nos relations avec le milieu de la recherche au Portugal et avec FCT. On travaille avec FCT. Alors, Elsevier, c'est une vieille maison d'édition scientifique, l'une des plus vieilles au monde, qui est née aux Pays-Bas au 19e siècle. Et donc, notre métier vraiment, c'est de mettre à disposition des chercheurs nos revues, nos catalogues pour qu'ils publient, puisque vous savez que comment ça fonctionne dans le monde de la recherche, il faut publier pour se faire connaître et progresser. Donc on a un catalogue de 2700 revues qui sont disponibles sur notre plateforme qui s'appelle Science Direct Et on a un accord cadre au Portugal, comme on a dans d'autres pays en Europe principalement, qui permet justement d'avoir un accord. Là, on a un accord avec FCT qui nous permet de mettre à disposition notre catalogue pour toutes les universités au Portugal. Donc, c'est une collaboration qu'on a depuis longtemps. Et là, on est en discussion pour renouveler cet accord. Juste pour vous dire, nous, en tant qu'Elsevier, on se positionne en tant qu'éditeur traditionnel. On apporte trois éléments importants aux chercheurs. D'une part, c'est l'accessibilité des contenus. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, on a beaucoup de journaux, beaucoup de revues, et on favorise les publications. Et vous savez, notamment dans le cadre du mouvement, ce qu'on appelle la science ouverte, open access, où nous, on a changé notre modèle via des accords transformants, transformative agreement. Je pourrais y revenir dans le détail si vous voulez. Mais ça nous permet justement de garantir une bonne accessibilité des contenus, puisque les chercheurs ont besoin d'avoir accès à ces contenus-là. Deuxièmement, c'est l'intégrité de la science. Comme je le disais tout à l'heure, on a vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, y compris d'informations scientifiques, et c'est jamais vraiment facile de comprendre. On l'a vu avec le Covid crisis, à la télévision, parfois on avait des informations scientifiques qui sont arrivées à la télé, mais ces informations, c'était du fake science, fake news. Donc c'est parce que l'éditeur n'avait pas fait son travail de vérification. Vous savez que chez un éditeur scientifique, on est une partie de la chaîne, mais on a un rôle très important, c'est de certifier l'information, d'apporter notre tampon. Et donc pour ça, on met ce qu'on appelle des mécanismes internes qui existent chez tous les grands éditeurs, qui sont des peer review process, donc du contrôle des publications. Parce que quand un chercheur publie un article, il ne le publie pas comme ça. Ça prend des mois, il y a des confrontations avec d'autres chercheurs, il est challengé sur cet article, et c'est comme ça que justement la science gagne en précision. Et donc nous, on fait très attention à cette qualité des articles qu'on publie, plus que d'autres, je vais y revenir. Mais pour vous donner un exemple, nous, on publie à la fin dans nos journaux 20% des contributions, des papiers qui nous sont envoyés. Only 20%. Pourquoi ? Parce que du coup, on est obligé d'être très rigoureux sur ce qu'on publie. Et enfin, la performance, parce que accessibilité, intégrité, performance, parce que en fait, on est un éditeur mondial avec des revues très connues comme The Lancet ou Cell, par exemple. Et donc, on a la capacité, quand vous publiez dans nos revues et vous êtes un chercheur, vous avez la garantie que votre article aura une forte notoriété, popularité. Alors, en fait, ce que je voulais vous... Après cette présentation de RELEX et Elsevier, je voulais juste, d'une part, vous parler du sujet qui va venir, mais peut-être qu'après, on pourra aussi élargir la discussion à l'intelligence artificielle, parce qu'on a des choses aussi à dire en ce moment, et peut-être aussi vous interroger sur la manière dont vous voyez sur le budget. Là, j'ai vu que le budget avec FCT, c'est compliqué. Voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de projets autour de la science. On pourra en parler. Alors, aujourd'hui, on est en négociation, Elsevier est en négociation avec FCT pour renouveler l'accord que nous avons avec eux. Donc, ça se passe bien, une négociation commerciale. Moi, je ne suis pas commercial, donc je ne suis pas là-dedans dans le détail. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de fond que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Open Science, science ouverte, qui vise à avoir... Vous savez, quand on publie chez Elsevier, vous avez soit accès à des abonnements, we pay to get access to a catalog of revenue, of journals, et il y a aussi payer pour publier, pour tout de suite mettre un article en ligne. Et donc, pour mettre un article en ligne, vous avez payé avant à l'éditeur le droit de publier tout de suite cet article. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que le mouvement de la science ouverte, il est très fort au Portugal, il est très fort en Europe, globalement. Et c'est d'autant plus important au Portugal que quand vous êtes un chercheur, vous devez publier en open access pour pouvoir avoir de l'argent de FCT. Funding from MCT, ok. Vous devez avoir du financement, vous devez publier en open access pour être évalué et pour être dans le système, être reconnu par le FCT. Et donc, nous, ce qu'on constate de notre point de vue, c'est que depuis ces dernières années, ça fait à peu près 4-5 ans, on a beaucoup d'indicateurs qui mesurent la performance des chercheurs et de la recherche au Portugal. Et en fait, on a vu depuis quelques années que ces indicateurs baissent. Alors, Pourquoi ? Ça veut dire que, en fait, les less quality in publications. Pourquoi ? Parce que justement, comme je vous disais, les chercheurs publient de plus en plus. Il faut se faire connaître, donc il faut publier de plus en plus. Donc ils passent par Elsevier, mais ils passent également par des nouveaux acteurs, newcomers, like MDPI, or je pourrais vous donner des noms, etc. Ce qu'on appelle des predatory journals, où en fait, eux, ils permettent vraiment de publier très très vite. Donc quand on publie très très vite, on raccourcit la période de peer review. Donc c'est moins rigoureux, l'article il est moins précis. Et donc du coup, comme l'article est de moins bonne qualité, il est moins repris, il est moins cité. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une baisse de la qualité. Et d'autre part, ce qu'on constate également, et je pense que votre commission et l'État portugais le constatent aussi, c'est qu'il y a une hausse des coûts. Lorsqu'on publie en open access, il y a un coût qui est associé à chaque fois qu'on publie un article, il y a un coût. Et comme il faut beaucoup publier, bah les coûts montent très très fort. Donc aujourd'hui, les deux challenges pour l'écosystème de la recherche au Portugal, c'est de maîtriser les coûts. Et là, on est vraiment dans les questions de budget. En ce moment, c'est important. Et de justement essayer de casser la dynamique, enfin la mauvaise dynamique qui me fait baisser la qualité de la recherche portugaise, ou en tout cas des publications portugaises, dans un contexte quand même budgétaire qui est compliqué. Donc nous, on voulait vous alerter là-dessus et sur le fait que nous, en ce moment, on est en discussion avec donc FCT pour renégocier notre contrat. L'avantage qu'on a, nous, c'est que, en fait, par rapport à ces deux challenges que sont la baisse de la qualité et la hausse des coûts, on apporte des réponses. OK ? Parce que avoir accès à notre catalogue, c'est avoir accès à des revues et lire les meilleures revues. Comme on dit souvent, if you read crappy journals, bad journals, then you will produce crappy science, bad science. Et si vous publiez dans nos revues, vous aurez accès à une grosse visibilité. Voilà. Donc, on vous offre une exposition très très bonne, mais j'attire votre attention sur le fait que aujourd'hui la négociation elle est compliquée avec FCT, elle est un petit peu arrêtée. Et en fait, FCT a beaucoup mis d'argent ces dernières années sur les predatory journals, donc qui permettent de publier vite, mais beaucoup, mais pas pour une bonne qualité, et un peu moins pour des acteurs comme Elsevier ou d'autres maisons d'édition plus vieilles, plus traditionnelles. Et aujourd'hui, nous, on a peur justement que la dynamique actuelle vise à privilégier la quantité au lieu de la qualité. Et or, vous le savez, en tant que présidente de commission, veut dire le rayonnement de la science, il est important pour un pays. Nous en France, on le voit très bien. On est dans une situation aussi où la qualité baisse en France et donc on recule dans les classements. Donc on est moins attractif pour les entreprises, moins attractif pour les chercheurs. Donc il y a un lien avec l'économie réelle. Et donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous alerter sur le fait qu'il y a un risque, nous qu'on ne renouvelle pas ce contrat avec FCT, alors qu'on publie quand même 20 à 30% de la recherche au Portugal, donc c'est important. Et il y a un risque surtout que les coûts continuent à augmenter. Pas avec nous, mais avec les predatory journals. Donc, vous n'êtes pas dans les négociations, moi non plus, mais en tant que présidente de commission, je pense que vous devez peut-être regarder d'un peu plus près, si je puis me permettre, cette situation, parce qu'en fait, c'est vraiment, on parle vraiment de l'écosystème de la recherche, de son impact. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est très important pour la visibilité d'un pays, pour son attractivité. Tu voulais compléter ?
Oui, je comprends. J'ai tout compris.
Bon, très bien, ça marche. Alors, je ne sais pas déjà si vous avez des questions, parce que c'est un sujet qui est complexe. Mais est-ce que vous avez des questions à ce stade, in English, French ou non ?
Je demanderais, par exemple, comment est-ce que vous êtes capable de parler avec les chercheurs pour leur présenter ce que vous nous avez dit.
Alors, nous, on a au Portugal et dans d'autres pays, on travaille avec des chercheurs parce qu'ils publient chez nous, mais nos interlocuteurs principaux, c'est FCT et aussi les recteurs. Voilà, donc on discute avec FCT, qui est la négociation, mais on a aussi des échanges réguliers avec les recteurs. Et les recteurs savent à quel point c'est important de pouvoir continuer à travailler ensemble pour leurs universités respectives. Mais les chercheurs, ils ont besoin d'Elsevier, ils ont besoin d'autres maisons d'édition pour pouvoir publier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation politique, d'après ce que je comprends, n'est pas facile. J'ai vu qu'il y avait des relations entre le ministre de la Recherche et FCT, des questions sur le budget qui n'étaient pas faciles. Nous, on ne veut pas être pris là-dedans, mais on dit juste que pour que la recherche portugaise soit visible, elle a la visibilité, il faut des budgets qui soient clairs, identifiés, et il faut une trajectoire, il faut un contrôle des coûts également. Donc oui, on est en relation avec les chercheurs, mais d'abord et avant tout avec les recteurs et avec FCT. Oui.
Quels sont les conseils que vous donneriez comme pays quand vous nous dites que vous avez l'expérience de beaucoup d'autres pays, comment faire pour promouvoir la science et la recherche que pouvez-vous nous conseiller? Si vous connaissez FCT, si vous connaissez tout l'écosystème de la recherche portugais, quels sont les points positifs et les points négatifs, les risques que vous voyez, parce que quand on est dans l'écosystème, on a une vision. Quand on regarde dans l'autre côté, de l'extérieur, on a une autre vision.
Alors, je pense que déjà, vous avez un écosystème qui est, pour un pays qui est petit, j'aime pas ce mot-là, mais qui est puissant, enfin, qui est bien organisé et puissant, avec des universités de qualité. Donc, nous, on a un certain nombre d'indicateurs que je pourrais vous communiquer. À l'issue de l'audition, je peux vous envoyer un document avec des chiffres, des indicateurs qui peuvent vous renseigner. On constate qu'il y a beaucoup de collaborations internationales, donc les chercheurs portugais travaillent beaucoup avec des chercheurs d'autres pays, et ça, c'est très positif. Donc la situation, elle est quand même relativement attractive pour le Portugal, mais le point de vigilance que je vous donne, c'est vraiment sur les dernières années avec ce mouvement d'ouverture de la science. Parce qu'encore une fois, publier vite, ça augmente les coûts et ça baisse la qualité. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faudrait d'abord et avant tout, pour des acteurs comme nous et pour les chercheurs, qu'ils aient de la visibilité. C'est comme dans toute décision politique. J'ai travaillé au Parlement français avant avec des politiques, donc les acteurs, ils ont besoin de visibilité dans la recherche comme dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression que du côté de FCT, on a l'impression que c'est pas forcément très clair, parce qu'il y a une pression de la part de l'État aussi pour réduire les coûts, réduire le budget. Et donc, on sent, nous, que nos interlocuteurs, ils sont prêts à sacrifier la qualité des contenus, la qualité des publications, pour des raisons budgétaires. Donc, j'aurais envie de vous dire, mon conseil, c'est par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays aussi, puisque cette situation budgétaire, elle est présente au Portugal, elle est présente en France, elle est présente en Espagne. En ce moment, en France, on est sur l'examen du budget. C'est très, très dur. Mais il faut faire attention à ne pas faire des choix de court terme, puisque si vous investissez dans la recherche, et globalement dans l'écosystème, ce sont toujours des investissements de long terme qui vous sont bénéfiques. Donc ce que j'aurais envie de vous dire, en tant que décideur public, ne prenez pas des décisions trop de court terme. Il faut parfois savoir préserver des budgets pour remonter la pente, pour préférer la qualité à la quantité. Sinon, vous allez perdre de l'influence au sein de l'écosystème de la recherche. Et je pourrais vous donner des indicateurs précis là-dessus qui montrent comment on peut rattraper la situation.
Est-ce que vous avez de travailleurs portugais dans votre entreprise?
Alors, je me suis renseigné. On n'a pas de travailleurs portugais chez Elsevier. On en a chez d'autres. Vous savez, on a un groupe, donc on a d'autres unités. Mais on a des travailleurs portugais ailleurs, qui travaillent ailleurs chez Elsevier dans d'autres pays. Non, on n'a pas de. C'est plutôt en Espagne, en fait.
Elsevier pasan parte de su tiempo aquí y parte de España.
Surtout des Espagnols.
Sí, son españoles y de otros países que, perdón, de otros países que viven en España.
À part les publications, vous avez parlé aussi des technologies.
Oui.
Alors c'est une autre dimension qui nous intéresse parce que c'est une des matières de notre commission.
D'accord.
Si vous pouvez développer un petit peu ce que vous faites
oui.
En ce qui concerne les technologies, ce que vous pouvez nous conseiller, nous offrir.
Alors, nous, on a une. Je vais vous, pendant quelques minutes, vous expliquer. On pense que c'est une chance, mais il faut faire attention à certaines choses. Je m'explique. En fait, l'intelligence artificielle, parce qu'on parle principalement de l'intelligence artificielle, c'est vraiment, on pense tous, une opportunité, une chance. Mais néanmoins, on est très attentif à la manière dont les produits vont se développer et dont le cadre est en train de se construire. Donc. Déjà, on est très favorable, nous, en tant qu'entreprise européenne, mais tech, quand même. Vous avez vu, on est vraiment les deux contenus. On a à la fois du contenu protégé, donc on est ayant droit, et puis on a à la fois beaucoup de data scientists, etc., donc on est très tech. Donc on est dans les deux mondes, création, innovation. On est très content de l'IA Act qui a été voté au niveau européen. Contrairement à d'autres entreprises comme Google, Microsoft, qui ont fait un gros lobbying contre cet IA Act, parce qu'on pense qu'il faut un cadre pour pouvoir préciser le développement de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous, on est très attachés à ce que le copyright soit préservé. Et on a des problèmes, je vous avoue, alors on le fait, on n'a pas de procès, hein, mais on a des problèmes, ou en tout cas on est très attentif. Sur la manière dont nos contenus ont été utilisés par OpenAI et d'autres entreprises, parce qu'on s'est rendu compte que OpenAI, ils ont scrappé tout le web et parfois il y avait nos contenus. Voilà. Nos contenus protégés. Mais c'est la même chose, ça pourrait les évier, mais c'est la même chose dans le cinéma, dans la musique. Voilà. Ils ont réussi à constituer des bases de données sans l'autorisation des ayants droit. Donc nous, la première chose qui nous importe là-dessus en tant qu'acteur du secteur, c'est de dire, vous ne pouvez pas, bien sûr qu'il faut des offres innovantes, des nouveaux produits, des nouveaux acteurs, mais on ne peut pas construire une offre en volant ce qui appartient aux autres. Il faut protéger le copyright. Et justement, ce qui se passe au niveau européen, l'IA Act donne un signal très important de protection des droits. Cette protection des droits, nous, ça nous permet après de développer des produits. Je m'explique. Elsevier, comme je vous disais tout à l'heure, on met à disposition avec des accords notre catalogue de revues avec les chercheurs qui, du coup, ils peuvent regarder, consulter, publier. Mais on a la capacité aujourd'hui, grâce au groupe Relex, qui est au-dessus, auquel j'appartiens, qui est un peu plus puissant financièrement, de proposer des solutions technologiques à base d'IA. Et aujourd'hui, on lance sur le marché des chercheurs par exemple, ou le marché médical, des nouvelles solutions à base d'IA générative qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de lancer des produits très performants sur un secteur. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes chercheuse. Vous êtes chercheuse et vous êtes chercheuse en nucléaire. Et vous voulez savoir ce que le résumé, quelles sont les dernières publications sur la dernière année en matière de nucléaire. Alors vous allez aller sur ChatGPT, vous tapez, on va vous sortir des résultats. Ces résultats, ils vont être datés, un peu vieux, il n'y a pas de source, et ils vont pas forcément être très très précis. Hier soir, j'ai été sur ChatGPT, j'ai demandé les résultats des élections portugaises, législatives. Et j'ai vu que les chiffres n'étaient pas les mêmes que ceux que m'a donné Diego. Parce que c'était les élections de 2022, vous voyez ? Donc c'est pas du contenu qui est toujours très précis, à jour, etc. Donc vous êtes chercheur, vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez aussi maintenant utiliser les produits qu'on est en train de lancer. Et je vous donne un exemple très concret qui s'appelle Scopus IA. Scopus IA, c'est quoi ? C'est un produit qu'on est en train de lancer qui résume toutes nos bases de données, tous nos articles, Et lorsque vous allez taper votre prompt requête dans la barre de recherche, on va vous sortir un résumé de ce qui s'est dit sur les derniers articles nucléaires, sur la physique nucléaire par exemple, sur la dernière année, avec les sources. Et ce sera surtout avec les sources et sur du contenu professionnel qui est certifié. Donc, pour faire simple, ChatGPT, c'est une grande boîte qui fait la taille de cette salle. Vous avez dedans plein de choses sur plein de sujets. À côté de ça, vous avez des acteurs comme RELEX et Elsevier qui disent « Non, non, mais en fait, il faut être beaucoup plus précis et professionnel. » Donc nous, on va lancer des petits modèles, des petites boîtes dans lesquelles on met nos contenus et grâce à l'IA générative, on est capable de multiplier l'accès à la connaissance et d'être beaucoup plus précis pour renseigner le chercheur lorsqu'il aura une recherche à faire. Voilà, très concrètement. Donc ce qui est important, c'est de continuer à innover, mais de le faire dans un cadre qui soit respectueux du droit d'auteur. Et ça, en ce moment, c'est compliqué, partout.
Votre dimension de la technologie, ce n'est pas la création de technologies d'équipement, mais la technologie au service de l'information.
Exactement, c'est exactement ça. Nous, on n'est pas là pour fabriquer des réseaux, des infrastructures ou même des logiciels. On est là pour prendre notre contenu, le protéger et à faire des accords techniques avec des entreprises technologiques. Par exemple, on a un accord avec OpenIA. Mais l'accord qu'on a avec OpenIA, c'est pas pour utiliser, en fait c'est un peu technique, mais ça nous permet de lancer des produits et en fait ChatGPT va s'entraîner uniquement sur notre contenu. En fait, il y a un mur entre tous les contenus de ChatGPT et nous, la version de ChatGPT, en fait c'est du sur-mesure en fait. C'est ce qu'on appelle un RAG, Retrieval Generative, I forgot the name, but... Et donc, du coup, on n'est pas là pour créer de la technologie. On est là pour utiliser la technologie et regarder comment on peut, avec la technologie, améliorer l'accès à nos contenus.
Merci. Je crois que ce sont trois entreprises.
Quatre, même.
Quatre.
Il y a Elsevier.
Elsevier.
Research. Research Medical.
À Madrid, en Espagne.
Voilà. Oui. Il y a Cisnexis. Je pense qu'il y a au Portugal également. LexisNexis, c'est pour les avocats.
LexisNexis es publica contenidos jurídicos.
Ah, jurídicos, apenas.
Okay. Que permite a abogados buscar sentencias, casos, leyes, okay. Códigos de todo el mundo.
Y a LexisNexis Risk Solution, ça c'est plus fraud. Risque, fraude en ligne, voilà, choses comme ça, mais ça c'est plus aux États-Unis. Et on a aussi une activité, alors un peu différente, qui est des salons B2B, show, marketplace, physical marketplace. It will be maybe a pleasure. Si.
Les grands événements qui concernent aussi un petit peu la science.
Alors, on a aussi des événements sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on serait ravis de vous inviter à Cannes, sur la Côte d'Azur. En février prochain, on a un événement qui s'appelle le World AI Cannes Festival, donc sur l'intelligence artificielle, avec beaucoup de speakers. Et donc, on serait ravis de vous accueillir à ce moment-là à Cannes.
Merci. Si vous voulez laisser un message pour tous les députés de la Commission...
Oui.
Quel serait le message que vous imaginez que tous les députés des différents partis politiques étaient ici? Quel serait le message que vous leur laissiez?
Le message, il est assez simple. On n'a jamais eu autant besoin de la science dans le contexte actuel. On le voit en tant que législateur qui fait la loi. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir accès à la bonne information. Et la science permet, non seulement dans le secteur scientifique, mais dans beaucoup de domaines, d'éclairer les choses et d'objectiver la situation. Donc, faites les bons choix et il faut préserver cet acquis. Et donc, pour le secteur qui nous concerne spécifiquement, soyez attentifs à la manière dont la science est perçue, traitée, utilisée dans votre pays. Ça passe par des investissements de long terme. Quand on dépense de l'argent sur la science... C'est jamais de l'argent qui est gâché puisque c'est un investissement pour les générations futures. voilà, pour l'innovation, pour la science, etc. Donc il faut que vous soyez attentif. C'est une question d'arbitrage, de savoir quel choix politique on fait. Mais faites attention, voilà, préservez la qualité de vos chercheurs, préservez votre écosystème, et ça passe par, voilà, par des accords solides, par une relation de confiance, nous, qu'on a su tisser, et voilà, essayez de donner de la perspective et de la visibilité.
Está demostrado que el investimento en ciencia hace crecer el Producto Interior Bruto de los países. Siempre es así.
Vous savez que en ce qui concerne le budget, c'est surtout le gouvernement. FCT, elle est en dialogue avec le ministre, monsieur le ministre, qui a la compétence sur cette matière, oui, budgétaire, en ce qui concerne l'éducation, la science, l'innovation, ici, la technologie, toutes ces matières. Bon, mais le budget, c'est effectivement en affaire du gouvernement, mais nous, ici, on peut faire des recommandations au gouvernement, et les partis politiques, ils peuvent aussi faire des recommandations, poser des questions. Alors, on a ici une possibilité d'interaction. Oui, bien, c'est ça.
C'est effectivement, ça serait super. Moi, ce que je m'engage à faire à l'issue de notre rendez-vous, d'ici vendredi, je pense, j'ai le temps de revenir en France, c'est que je vous envoie des documents avec des chiffres. Et à la suite de ça, vous prenez les décisions, vous faites comme vous voulez, etc. Mais c'est vrai que c'est bien que... c'est vrai qu'en tant que parlementaire... La relation se fait entre le gouvernement et FCT, mais vous êtes légitimement en droit de poser des questions ou d'interpeller en disant « Mais attendez, est-ce que vous pouvez nous donner un panorama parce que je ne comprends pas ces indicateurs, etc. » Ou « On m'a dit que... » Voilà. C'est votre rôle, je pense, c'est légitime tout à fait.
Beaucoup.
Muito obrigado.
Merci. Non, c'est si c'était alguma coisa mais à dire. Est-ce que c'est tout ce que vous vouliez nous dire? C'est bien?
Je pense qu'on est bon, ouais.
Para enviar documentos...